franceinter.fr.
Aujourd'hui, sorti dans les salles de cinéma du dernier film de Luc Jacquet, La glace et le ciel.
En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes.
Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était.
Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme.
À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate que l'histoire lui a donné raison.
Bonjour, Luc Jacquet.
Bonjour.
Votre film retrace le parcours d'un homme, d'un scientifique aventurier, Claude Lorius, dont l'histoire personnelle va rencontrer notre histoire collective à tous. Sa découverte marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Qui est Claude Lorius ?
Claude Lorius, c'est un des plus grands scientifiques du XXe siècle. C'est lui qui, le premier, a décrit effectivement l'impact de l'activité humaine sur le bouleversement climatique. Il a découvert ça dans les glaces de l'Antarctique, en analysant ces petites bulles qui sont capturées dans le manteau neigeux, puis dans les glaces profondes.
C'est vraiment une grande histoire d'amour entre cet homme et ce continent blanc. Il part pour la première fois à quel âge en Antarctique ?
Il part à 23 ans en 1956, dans des conditions absolument incroyables. On ne connaît encore quasiment rien de l'Antarctique. C'est d'ailleurs amusant de noter qu'il part pour essayer de comprendre pourquoi il fait froid en Antarctique. Ça peut faire sourire aujourd'hui, mais il fallait commencer par là.
Ouais. Il y a un lien entre votre parcours personnel à vous, Luc Jacquet, et le parcours de cet homme, même si vous êtes cinéaste, réalisateur, notamment un Oscar pour la marche de l'Empereur, mais tous deux vous avez découvert l'Antarctique à peu près au même âge et tous deux vous avez été transformés par ce lieu.
Oui, c'est peut-être pas pour rien qu'on s'est entendu à ce point-là et qu'on a fait un film ensemble. Moi, j'ai, tout comme Claude, découvert ma vocation de cinéaste, lui de scientifique en Antarctique. Et on est tous les deux partis pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'on est plutôt partis pour l'aventure et puis pour aller voir comment ça fait là-bas, quoi.
Et petit à petit, dans son cas, c'est vraiment le goût de la découverte. Vous dites, vous employez cette très belle expression dans le film, éprouver encore et encore le frisson de la découverte. Il s'est vraiment pris de passion pour les découvertes qu'il pouvait faire là-bas.
Oui, Hervé Le Treut m'a fait un très beau compliment. Il m'a dit, t'as fait un film sur la pulsion scientifique. Ouais. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est cette passion de savoir, ce frémissement, cette vibration qui vous donne envie d'aller plus loin et de mettre en place des choses parfois très complexes pour arriver à comprendre. Et c'est sûr que ce film est d'abord un hommage à la science. Ouais.
Et cette pulsion de la découverte va l'emmener évidemment beaucoup plus loin qu'il ne pouvait l'imaginer, puisqu'il y a cette découverte qu'il fait presque par hasard autour d'un verre de whisky.
Épisode célèbre, ouais. C'est la pomme de Newton, c'est la baignoire d'Archimède. Effectivement, Claude, un jour, a mis un morceau de carotte de glace dans un verre de whisky. Comme la glace est très très pressée, du gaz est sorti de ce glaçon. Et c'est en voyant ces bulles qu'il s'est posé la question, mais finalement, d'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Mais je trouve ça intéressant dans le sens où, à un moment donné, un chercheur est prêt à voir quelque chose. Et ça peut être un tout petit événement comme ça qui déclenche finalement une recherche qui va donner les résultats qu'on connaît aujourd'hui, à savoir documenter le bouleversement climatique.
Ça, d'où venaient-elles alors ces bulles? Qu'est-ce qu'elles représentaient, ces petites bulles qui étaient à l'intérieur de son glaçon dans son whisky?
Alors, ce qui se passe, c'est quand la neige tombe en Antarctique, elle emprisonne de l'air et cet air est parfaitement conservé. Et la glace va s'enfoncer petit à petit dans le manteau jusqu'à aller sur le socle antarctique. Et donc ces bulles d'air sont des véritables archives du climat. Encore fallait-il le prouver, encore fallait-il être capable d'analyser ces micro-bulles. Et c'est vraiment tout le travail qu'a fait Claude et ses équipes pendant des dizaines d'années.
Oui, c'est-à-dire il ne suffit pas d'avoir l'idée, il va falloir en avoir la certitude et puis ensuite il va falloir convaincre. Et c'est aussi tout ce que raconte votre film, entre le moment où on découvre et puis on est un peu un pionnier, il faut alerter à la fois les décideurs, l'opinion publique.
C'est ce qui est troublant dans la vie de Claude, c'est-à-dire ce qu'on répète à l'envi aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'il le dit, mais il l'a dit à un moment donné où le progrès faisait foi et on n'avait pas spécialement envie d'entendre ça. Parce que qu'est-ce que nous dit Claude? Il nous dit, on a une activité qui est prouvée sur la marche de la machine climatique et il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on prenne garde. Et évidemment, ça empêche à tourner en rond parce que c'est le petit bonhomme tout seul qui se met devant les chars, qui dit, non, ça ne passe pas, on ne peut pas passer comme ça. Ouais. Quoi.
Alors, aujourd'hui, Claude Lorius est un scientifique reconnu, mais vous lui faites dire quand même des choses assez amères dans votre film. Que vaut la reconnaissance quand on n'a pas été entendu? Je lutte contre le sentiment de n'avoir servi à rien.
Je trouve qu'il y a ces deux sentiments chez Claude. Il y a à la fois effectivement ce fond d'amertume, puisqu'il a été aussi obligé de lutter pied à pied contre les climato-sceptiques, qui avaient de très mauvaises raisons de contester ces découvertes, et de l'autre, cet optimisme fondé sur un humanisme incroyable. Et je sens qu'il est toujours partagé entre ces deux sentiments, bien qu'au fond, j'ai le sentiment que finalement, c'est quelque chose de positif qui domine.
Axel Villard.
Dans cette lutte-là contre les climato-sceptiques, souvent les scientifiques ont eu des messages catastrophistes, qui sont en train d'être abandonnés petit à petit pour des discours plus porteurs d'espoir et tournés vers l'humain. Vous inscrivez votre film dans cette lignée-là?
Ben moi, ça fait 5 ans que je suis dans cette lignée-là, avec tout le travail que je fais avec White Hot. Je pense que ça
White Hot, c'est donc votre association, votre
association,
boîte de production.
Voilà, avec qui, je pense qu'on fait beaucoup de pédagogie à l'environnement. C'est pas en désespérant les gens qu'on les amène à changer de situation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mobiliser, il faut motiver, comme n'importe quel chef d'équipe, comme n'importe quel capitaine. Et il faut dire aux gens, non, évidemment, notre monde va changer, mais il faut qu'on prenne ça de manière extrêmement positive.
Et là, votre film sort à 2 mois de la conférence de Paris, la COP21. Vous avez des espoirs particuliers personnellement par rapport à ce rendez-vous?
Je pense que j'ai l'espoir que peuvent avoir tous les êtres humains sur cette planète. C'est-à-dire que on a bien compris qu'on pouvait pas continuer comme ça, mais on a aussi compris qu'à titre individuel, il était très compliqué d'agir. Et on a besoin de gens qui administrent le bien commun, qui sont les hommes et les femmes politiques, et j'espère qu'ils sauront se montrer à la hauteur, finalement, du moment historique qui les attend là.
Vous allez y participer d'une certaine façon, vous, à ce rendez-vous?
Donc moi, je repars en Antarctique la semaine prochaine, puisque
c'est-à-dire
je vais mobiliser...
Vous serez là-bas pendant la COP21?
Absolument, ouais. Je vais en Terre Adélie, puis c'est les 10 ans de la marche de l'Empereur, c'est aussi de là qu'est venue l'alerte climatique, avec 2 photographes, Vincent Munier et Laurent Balesta. On va envoyer une photo par jour, qu'on projettera sur un grand monument de Paris, pendant la COP21, pour dire que là-bas aussi, il se passe des choses. Il pleut en Antarctique depuis très peu de temps. Ça a des conséquences absolument catastrophiques sur les populations animales là-bas. Moi, je veux absolument qu'on arrive à se mobiliser. Je sais que le manchot empereur est une icône, est aussi un patrimoine commun de notre humanité. Je veux qu'on se mobilise aussi autour de ces questions.
Alors, c'est un très beau film. Hein. C'est un film utile. Je le recommande vraiment vivement à nos auditeurs et puis aux plus jeunes. J'espère que les enseignants qui ne savent peut-être pas comment aborder cette question du réchauffement climatique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, on s'affole autour de cette COP21. C'est une bonne façon d'aborder la question, de discuter. C'est aussi un film que vous faites pour les générations futures. C'est un peu un film testamentaire aussi.
Oui, moi je m'inscris effectivement dans une démarche patrimoniale avec ce film. On a aussi beaucoup travaillé avec les enseignants, les chercheurs, pour produire de la connaissance sur le web, une connaissance qui soit intéressante, interactive, passionnante. Donc allez voir sur le site education.laglaceelciel.com, vous allez voir, il y a plein de choses à apprendre, et vous allez voir aussi qu'on peut raconter des très belles histoires avec la science.
Merci Luc Jacquet, on souhaite vraiment à La Glace et le Ciel le succès qu'il mérite. Merci Axel Villard.
À demain Daniel.
À demain.
Merci.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, et si l'avenir de la collaboration spatiale internationale était la construction d'un village lunaire? C'est ce qu'a laissé entendre le nouveau directeur de l'ESA, l'agence spatiale européenne, Johann Dietrich Vollmer, lors du 66e congrès international d'astronomie ce week-end à Jérusalem. L'idée est sur la table, a-t-il déclaré à l'AFP. Il faudra commencer par une étape robotique, puis ensuite une étape de station habitée. La belle aventure de la station spatiale internationale se terminera certainement d'ici 2024 et la suite des collaborations pourrait donc se faire sur la Lune. Plus loin dans l'univers, cette étude de la NASA sur les planètes jumelles de la Terre, selon une estimation théorique basée sur les observations des télescopes Hubble et Kepler, la Terre ferait partie des toutes premières planètes pouvant abriter la vie à s'être formée dans l'univers. Elle ferait partie des 8% de planètes habitables formées il y a 4,5 milliards d'années, des résultats qui devraient permettre d'affiner les calculs de probabilité concernant l'existence de civilisations extraterrestres évoluées. Et pour finir, un cas unique associant sudoku et crise d'épilepsie. Il s'agit d'une étude menée par des chercheurs américains. Après un accident qui a privé son cerveau d'oxygène pendant plusieurs minutes, un jeune américain a développé des réactions bien particulières au sudoku. Les fameux casse-têtes mathématiques déclenchent chez lui presque systématiquement des tremblements dans les bras, rappelant ceux provoqués par les crises d'épilepsie. Après investigation par imagerie cérébrale, les chercheurs supposent que des fibres qui cloisonnent les différentes aires de son cerveau ont pu être abîmées. Ainsi, l'activité intense liée à la résolution des sudoku se propage à d'autres aires alentours, notamment celles qui contrôlent les mouvements du bras. Ce cas clinique très particulier ne doit pas vous inquiéter. Les sudoku restent totalement inoffensifs pour tout le reste de la population.